Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est l'heure du journal de la culture d'Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Vous démarrez ce journal Hélène par une étude qui concerne la consommation de musique pendant le confinement.
Bon Philippe, vous aviez une petite musique de confinement, on en a tous une.
Un titre ou un groupe ?
Oh, n'importe, comme vous voulez.
Un duo Jar et Art of Noise, un groupe Arcade Fire.
Voilà, parfait. Alors la musique s'est avérée, en tout cas, être un très bon camarade de confinement pour beaucoup d'entre nous. Alors certes, il y a eu une chute des ventes de disques suite à la fermeture des magasins, mais cela n'a pas empêché une très grande consommation de la musique. Une étude américaine a mené donc une enquête sur les habitudes musicales des consommateurs. 84% des auditeurs ont écouté de la musique qu'ils écoutent habituellement. 43% ont découvert des artistes qu'ils n'avaient jamais écoutés auparavant.
Moi aussi.
Ah bah voilà, très bien Philippe, donc vous faites partie des 43%. Et la consommation de YouTube a augmenté de 10% en ce qui concerne les recherches musicales. Un sondage a été réalisé concernant les concerts. 61% des personnes questionnées souhaitent que le gel hydroalcoolique soit mis à disposition. 50% d'entre eux veulent un nombre limité de billets à la vente. Et la plupart souhaitent participer à un concert plutôt en extérieur.
Les théâtres de Broadway lourdement impactés par la crise sanitaire. If I can...
La sensation d'y être à Broadway, célèbre quartier qui entoure Times Square à New York. Le quartier des spectacles et des comédies musicales, c'est officiel. Tous les théâtres de Broadway resteront fermés jusqu'au 6 septembre au moins. Avant le début du confinement, 31 spectacles se jouaient tous les soirs. Annonce de l'association professionnelle de Broadway League. Alors c'est la première fois que Broadway restera fermé aussi longtemps. Les pertes économiques sont considérables puisque chaque semaine de fermeture, c'est plus de 30 millions de dollars de recettes perdues.
Un festival de films à Bordeaux lance un appel, mais un appel à films.
Il s'agit du Festival international du film indépendant. Il se déroule du 4 au 19 octobre. Alors avec le confinement, c'est assez compliqué de trouver des films à présenter. Il y a plusieurs compétitions internationales, compétitions françaises, courts-métrages français et contrebande. C'est-à-dire un film, vous savez, sans limite de durée et réalisé en dehors des schémas classiques de financement. L'année dernière, 900 films étaient inscrits. Et alors tous les films de tous les pays peuvent postuler. Inscription avant le 15 juillet. Alors il faut tout d'abord remplir un formulaire sur le site www.fifib.com.
Fifib.com. Le réalisateur James Cameron se dit confiant au sujet de la sortie d'Avatar 2.
Le second volet qui nous emmène dans l'univers de Pandora est donc toujours prévu en décembre 2021 dans les salles obscures. Le réalisateur n'est pas inquiet, sauf que avec la pandémie... Tout est à l'arrêt, tournage, post-production. Il n'est pas possible pour James Cameron de se remettre au travail, sachant qu'il doit aussi tourner en Nouvelle-Zélande, sauf qu'aujourd'hui, il n'a pas les autorisations. Alors oui, la sortie d'Avatar 2 peut être décalée de quelques mois, mais James Cameron continue de croire à cette sortie en décembre 2021. Les équipes continuent de travailler à domicile quand même, ce qui est assez rare quand il s'agit d'un tournage d'un film. Alors après Avatar 2 en décembre 2021, il y aura Avatar 3 prévu en 2023, Avatar 4 en 2025, et il faudra attendre 2027 pour Avatar donc 5 et donc la fin de la planète Pandora et de ses aventures. L'ensemble de ces épisodes est estimé à près $1 milliard de frais de production selon Deadline. Et je rappelle quand même Philippe que Avatar 1 avait dépassé les 14 millions d'entrée en France.
C'est quand même de la production de 1 milliard de dollars. Ce chiffre faramineux quand vous voyez les 30 millions de Broadway qui perdent chaque semaine, c'est juste une autre dimension. Le nouveau roman d'une grande dame, un mythe de la littérature mondiale, Elena Ferrante, son nouveau roman bientôt disponible en France.
Il sortira le 9 juin prochain. Il s'intitule « La vie mensongère des adultes » aux éditions Gallimard. Alors Elena Ferrante, auteure italienne très mystérieuse, alors que sa renommée mondiale grâce à la saga « L'amie prodigieuse » adapté en série par la chaîne HBO. Son nouveau roman va être adapté, lui, par Netflix en série, toujours.
Voilà, et puis je précise qu'Elena Ferrante, c'est un pseudonyme, on ne sait pas
exactement
qui c'est. On termine, Hélène, par de la danse, mais là, on sait qui c'est. Vous allez pouvoir vous glisser dans la peau de Patrick Swayze et Jennifer Grey.
It's a dream.
n'en a jamais rêvé, Philippe, excusez-moi, de reproduire à l'identique la chorégraphie de la scène finale de Dirty Dancing, ouais. Qui n'a jamais tenté le porter.
Moi jamais, mais vous l'avez tenté ?
Ah bah plein de fois. Moi c'est mon occupation préférée.
Ah,
quand même.
Ça.
Alors et c'est, il faut une petite organisation parce que je saute pour faire le porté, il faut me tenir les jambes. Enfin bref. Alors vous allez pouvoir le faire grâce à la société Écran Pop et l'artiste Karim Camara le samedi 23 mai à 18h avec l'application Zoom. Vous pouvez apprendre la chorégraphie du film après un échauffement et une heure de cours. Et à la fin, il est possible de récupérer la vidéo de vos performances.
Ah non, mais là je veux vous voir lundi.
Ah bah, je vais le faire le 23 mai, puis
voilà,
je vais récupérer
exactement.
La vidéo. Ah mais je m'engage à le faire.
Ah bah
vraiment.
Formidable.
Je vous le dis ce matin. Et d'autres thématiques seront proposées très prochainement. Voilà.
Merci beaucoup Hélène, vous pouvez commencer l'échauffement. À demain, dans un instant.
À demain.
On va parler littérature encore, on va recevoir Manuel Carcassonne, le directeur général des éditions Stock. On va parler de Woody Allen, c'est lui qui l'édite, on va parler de cette rentrée très étrange. Mais d'abord musique.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Manuel Carcassonne. Bonjour Manuel.
Bonjour Philippe.
Vous êtes éditeur, immense connaisseur de la littérature et depuis 2013, directeur général de Stock, la plus ancienne maison d'édition française fondée en 1708, où vous avez succédé au regretté Jean-Marc Roberts. Et là, je m'adresse, Manuel, à l'amoureux du mot juste que vous êtes avec un point vocabulaire. Est-ce qu'on doit dire les librairies ont rouvert ou les librairies ont réouvert ?
Cher Philippe, moi je dirais que dans mon cœur, les librairies n'ont jamais fermé d'abord. Ce serait la première chose à dire, puisque les librairies sont essentielles à notre petit commerce. La deuxième chose, grammaticalement, je pense que les deux doivent se dire, parce que l'usage commun a l'air d'être passé de dire « rouvrir ». Donc je pense qu'on peut dire « rouvrir », même si probablement l'usage grammaticalement le plus correct, dans le sens de Grévis, ouais. De Vaugelas, ce serait de dire « réouvrir ». Je crois que les deux vont aller en ce moment. L'essentiel, je vais vous dire, c'est que ça reprenne.
Exactement,
quelle que soit
exactement.
La grammaire.
Alors, au menu des chiffres et des lettres, d'abord les chiffres. Comment vous avez vécu professionnellement le confinement ? Dans quelle mesure le secteur de l'édition a-t-il été impacté ? Vous avez quel chiffre ?
Ah, le secteur de l'édition, mais comme beaucoup d'autres secteurs du monde culturel, hein, a été terriblement impacté, puisque en France, on a à la fois la chance et le défaut, si j'ose dire, d'avoir beaucoup de librairies physiques. Indépendantes, des groupes aussi comme la FNAC, comme Cultura, comme Leclerc, bien sûr, qui vendent du livre, et un commerce du livre électronique très faible. Mmh. Donc, évidemment, dans les pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, où le commerce électronique est important, en fait, leur marché ne s'est pas du tout écroulé, alors que nous, on a perdu probablement en mars et en avril, en tout cas pour nous, plus de 50%, pour certains, jusqu'à 80%, etc. Parce que tout simplement, le marché électronique en France, c'est-à-dire commander des livres par Internet ou les lire sur fichier, n'est pas quelque chose de culturellement développé.
Et les livraisons n'ont pas compensé, évidemment, si vous le dites, Amazon, Fnac et autres
non.
qui livrent, ça n'a pas compensé. Énormément, et aussi de lancements de livres ont été reportés, notamment parce que les auteurs ne pouvaient plus aller les défendre dans les médias. Comment vous avez vécu professionnellement ce confinement ? Vous avez fait des réunions de représentants en visioconférence, c'était comment ?
Oh, écoutez, c'était lunaire comme pour beaucoup d'entre nous, puis ça dépend des caractères. Moi, je suis clairement un homme de contact, hein, comme les éditeurs sont quand même des êtres sociaux, hein, parce que si on est complètement misanthrope, c'est quand même difficile d'être complètement éditeur au sens, disons, en tout cas de patron de maison, puisqu'il y a une partie d'animation, il y a une partie sociale très importante. Donc, fatalement, le confinement nous réussit assez mal. Donc, on a fait, oui, comme tout le monde, des visioconférences, des téléphones, et surtout, moi, j'ai clairement reporté, avant l'été, j'ai reporté 70% de mon programme, sauf, bien sûr, ne va pas de soi d'ailleurs, l'autobiographie de Woody Allen qui va paraître le 3 juin sur laquelle je travaille tous les jours.
On va en parler de cette autobiographie. D'abord, juste un mot, avec les retards de confinement, on annonce plus de 700 nouveautés mises sur le marché. C'est pire qu'une grosse rentrée de septembre, pire ou mieux. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces 700 livres qui vont débouler ?
Oui, c'est beaucoup. Le chiffre, comme vous, m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? D'habitude, on se plaint de la rentrée littéraire en septembre. Il y a, voilà, 500, 600 livres, les grosses années, on trouve ça énorme, hein, juste titre. Hein. Puis là, 700 livres, alors que les libraires disent, pas de nouveauté, on va être prudent. Ça m'a à la fois terrifié et en même temps, je pense que tout est sans dessus dessous en ce moment. Et je crois qu'il faut vivre cette date de réouverture de la librairie et aussi de réexistence du seul secteur culturel qui en ce moment marche, c'est le livre.
Ouais.
Puisqu'il n'y a pas de cinéma, Il n'y a pas de salle de concert, il n'y a pas de théâtre, etc., etc. Ce que je regrette. Mais le livre, du coup, est en position malgré tout de dominante culturelle. Ouais. Donc 700 livres, il faut le ramener à l'aune de la population française. C'est beaucoup, mais c'est aussi le signe de la vitalité du secteur. C'est aussi le signe que l'édition, c'est clairement un secteur dont, d'ailleurs, je trouve qu'on ne parle jamais assez par rapport au cinéma ou à d'autres, parce que culturellement, mais aussi du point de vue industriel, c'est le secteur le plus important en termes de chiffre d'affaires, loin devant le reste.
Exactement. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les livres du printemps vont devenir les livres de l'été, ou de la rentrée, ou du printemps 2021 ? En deux mots, avant qu'on parle de Woody Allen ?
Ça va être très étrange, parce que je pense que dans les livres que nous publions là, au printemps, les uns et les autres, moi j'ai été particulièrement drastique avec la production, mais d'autres donc le sont aussi, il va certainement y avoir des choses pour l'été, c'est les gros porteurs dont vous avez entendu parler, les Musso, les Kerr, etc. Mm. Mais il y a aussi là-dedans une diversité. Moi, ce qui me fait peur, cher Philippe, c'est que la diversité, c'est-à-dire les petites quantités, soient évidemment victimes de cette crise, c'est-à-dire le gros porteur.
Exactement.
Le livre qui va être mis en place, malgré les restrictions, malgré tout, à des centaines de milliers d'exemplaires, il va y arriver. Mm. Ça va être sûrement moins que d'habitude, mais il va y arriver. Alors que le livre plus fragile, plus ténu, le talent qui va être là, mais qui va être commercialement moins soutenu, c'est celui-là qui risque d'être victime. Et c'est aussi sur ces livres-là qu'il faut se battre, avec la conscience qu'on ne se bat pas seulement pour le présent, mais pour l'avenir. Christophe Honoré a fait dans Le Monde un texte un peu amer, mais assez juste, en disant que cette période de confinement, c'était une période pour la création de perte d'un pan de la création. Je ne pense pas que dans cette période d'anxiété, dans cette période d'inquiétude, on crée bien. Mmh. C'est pour ça qu'il faut protéger ce qui va se passer aujourd'hui pour construire ce qui va se passer demain.
Alors, ce qui va se passer aujourd'hui ou demain, c'est vous qui allez éditer chez Stock l'autobiographie de Woody Allen. Le livre a été plusieurs fois repoussé. Il sort quand ?
Oui, écoutez, je n'ai cessé de le repousser au gré des conditions sanitaires. Il sort le 3 juin avec certitude.
D'accord. Alors, aux États-Unis, l'autobiographie de Woody Allen a fait un scandale avant même sa sortie. Le Monde a très bien résumé l'affaire. Le livre devait initialement sortir aux États-Unis chez Grand Central Publishing, filiale d'Hachette Livre, qui publie également Ronan Farrow, le propre fils de Woody Allen. Ce dernier reprochait à l'éditeur de ne pas avoir pris assez de précautions dans cette autobiographie en ce qui concerne les accusations d'agression sexuelle qui visent Woody Allen. Sa fille adoptive, d'Alan Farrow, affirme avoir été abusée sexuellement à l'âge de 7 ans en 92, ce que le réalisateur a toujours nié. Face au tollé et aux manifestations des salariés, Hachette Livre a renoncé à le publier aux États-Unis. Voilà le résumé du Monde. Stock fait partie d'Hachette Livre. D'autres grands éditeurs français se sont défilés. Sauf vous, pour quelle raison ? Pourquoi publiez-vous ce Woody Allen ?
Alors, à ma connaissance, je ne crois pas que d'autres éditeurs français se soient défilés, puisqu'à vrai dire...
Oublions ça. Pourquoi publiez-vous ce livre ?
Voilà, éditeur de livre. Ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, de toute façon, le paysage culturel est différent d'une autre. On sait que les précautions du politiquement correct là-bas ont pris de l'ampleur. Personnellement, je trouve ça très exagéré. J'ai eu maintes fois l'occasion de le redire. Et par ailleurs, il y avait peut-être un problème spécifique et réel à faire coexister Ronan Farrow et Woody Allen. En France, ce n'est pas la même chose. En France, la culture de l'édition est beaucoup plus libre, maison par maison, tout simplement parce qu'il règne quand même une atmosphère moralement moins oppressante, je trouve. Et pour moi, il n'a jamais été question de ne pas le publier.
Ouais. Alors, dans le livre, je ne l'ai pas lu, mais dans le livre, je sais qu'il n'élude pas l'affaire. Que dit-il ?
Non, il consacre pratiquement 80 pages ou plus à l'affaire. Écoutez, il explique avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'ironie sur lui-même, avec beaucoup de drôlerie. Le livre est très drôle, le livre est vraiment comme un film de Woody Allen. Il explique que ses mariages ont été des calamités, qu'à chaque fois qu'il a voulu épouser quelqu'un, ça s'est mal fini, sauf son actuelle liaison qui date de 22 ans maintenant, avec sa femme actuelle, qui est donc la fille adoptive de Mia Farrow. Et il s'en explique avec beaucoup de drôlerie. Il explique qu'en gros, Mia Farrow était une bonne mère pour la galerie et une pas très bonne mère dans le réel. Il donne des exemples, c'est assez dur même à lire, enfin, c'est assez violent. Et il nous remet dans le contexte de l'affaire à l'époque et il s'en explique avec beaucoup de précision. Il faut rappeler que Woody Allen a été blanchi 2 fois par la justice américaine.
Ouais.
C'est tout simplement un divorce, comme beaucoup d'autres, un mal tourné. Sauf que d'habitude, on n'en parle pas, mais là, ce sont deux stars américaines de Hollywood et de New York, c'est-à-dire Mia Farrow d'un côté, Woody Allen de l'autre. C'était au pic de leur gloire. Hein. Faut pas oublier, aujourd'hui, c'est un vieux monsieur quand même. Il a plus de 80 ans. Mais à l'époque, c'était pas le cas.
L'autobiographie de Woody Allen, ça sort dans quelques jours chez Stock. Merci beaucoup, Manuel Carcassonne, directeur général de ces éditions. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue. Dans un instant, on va parler littérature, mais d'abord musique. Angèle Châtelier qui nous parle d'une très belle initiative lancée par la SACEM. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Premier indispensable du jour avec Angèle Châtelier. Bonjour Angèle.
Bonjour Philippe.
Question toute simple, c'est même une proposition. Et si on écoutait tout ce qui se fait de bien en musique chez nous, en France?
Oui, parce que la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, a lancé une initiative appelée Scène française. Et cette scène, elle est riche, elle est brillante, elle est attrayante. Et en ces temps de crise, la SACEM a voulu la soutenir en créant une playlist d'une centaine de titres d'artistes français et en appelant surtout à streamer, acheter, partager et surtout valoriser nos talents locaux. La SACEM qui d'ailleurs a annoncé un plan d'aide de 43 millions d'euros pour aider cette scène. Et à Europe 1 aussi, on la soutient tous les jours. Et aujourd'hui aussi, coup d'œil sur trois artistes français bien de chez nous, à commencer par Pyjama. Connaissez peut-être, oui. Car c'est le générique de l'émission d'Émilie Mazoyer, musique sur Europe 1 chaque soir. Alors Pyjama, c'est un duo, mais son visage, c'est Pauline de Tarragon, une avignonnaise de 22 ans, découverte par la Nouvelle Star en 2014. Elle compose avec le multi-instrumentiste Axel Concato. Leur premier album est sorti l'année dernière, il est inspiré des années 60, c'est une musique candide et envoûtante. Freedom, silence, go, no day. Pyjama, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus confortable. Et c'est l'esprit que le groupe a voulu donner à leur musique. Leur album s'appelle Nice to Meet You. Et il est donc à découvrir pour soutenir la scène française.
Angèle se voit chez elle en pyjama en train d'écouter de la zik. Ça fait donc un groupe français à écouter. Quel est le deuxième?
Alors son nom est Robotique, PR2B. C'est encore une Pauline, Pauline Rambaud de Barallon qui vient de Bourges. Et elle devait jouer au festival We Love Green cette année aux côtés de Catherine Ringer ou Lana Del Rey. C'est un hasard, mais c'est quand même cocasse parce que quand on l'écoute, on entend une voix aussi profonde que celle de Ringer et une musique aussi cosmique que Lana Del Rey. Est une artiste au sens large. Elle a fait la prestigieuse école de cinéma La Fémis et elle se rendait le soir au cours Florent côté théâtre. Elle s'est fait connaître grâce à La Souterraine, une structure qui déniche les jeunes talents et qui les met à l'honneur dans des compilations. Alors sur l'une d'entre elles, PR2B a fait une reprise de Léo Ferré de la chanson Tu ne dis jamais rien. C'est seulement trois titres pour l'instant, mais qui cumulent déjà des milliers d'écoutes.
Et puis un dernier groupe pour la route alors.
Oui, parce qu'il revigore Philippe et qu'il rend la vie un peu plus radieuse qu'elle ne l'est en ce moment. c'est Papouze, un duo vitaminé qui tourne depuis quelques années déjà avec leurs deux albums, Chemise à fleurs et Soleil au programme, très 70s, une image éclatante dans leurs clips comme à leurs concerts. Je vous les conseille vivement et je vous propose qu'on les écoute, Philippe.
Avec plaisir, merci beaucoup Angèle Châtelier, à très vite.
À bientôt, et voici donc le tube de Papouze and Want to Dance. N'oublions pas de soutenir la scène française florissante. Vous êtes bien sur Europe 1.
Indispensable du jour, on va parler livre avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Philippe.
Vous nous parlez du dernier roman de quelqu'un qui se fait plutôt discret dans les médias. Mm-hmm. C'est pas un fou de la médiatisation, mais c'est l'un de nos romanciers les plus talentueux, Tonino Benacquista.
Oui, il s'est fait notamment connaître avec son premier succès Saga en 1997. Vous vous souvenez l'histoire d'une bande de scénaristes chargés d'écrire une sitcom.
Ouais.
Il a écrit aussi Malavita, adapté au cinéma avec Robert De Niro quand même, Michelle Pfeiffer et Tommy Lee Jones, pas mal. Il a écrit des scénarios. Il a coécrit par exemple De battre mon cœur s'est arrêté.
Mais
oui,
pas.
C'est lui. Et même un Lucky Luke avec Daniel Pennac.
J'avais
beaucoup
pas non plus.
De nouvelles aussi, mais je vous fais pas tout le CV. Il revient donc avec un nouveau roman au titre superbe. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une, chez Gallimard.
Donc c'est donc logiquement une histoire d'amour, ce livre.
Alors oui, mais pas que ça. C'est l'histoire de Léo, un jeune garçon, un type tranquille, un flâneur. Son métier n'est pas des plus éprouvants. Il travaille pour la SNCF. Il est chargé de faire remplir des questionnaires d'évaluation aux passagers dans les trains. Donc il se balade dans les TGV, il donne les questionnaires et puis il les récupère, c'est tout. Parfois même il a la flemme d'y aller, alors il les remplit avec quelques copains en faisant attention à changer d'écriture à chaque fois et à faire bouger un peu la table pour imiter les tremblements du train.
Mais j'adore le coup de la table qui bouge, il est malin.
Il est malin, mais c'est pas un magouilleur, c'est juste un rêveur et un photographe de génie. Comme il a du temps, il fait souvent de grandes balades dans Paris pour essayer de trouver de bonnes photos à faire. Il n'a aucune ambition, mais malgré lui, une agence le repère et il commence une vraie carrière de photographe. Par ailleurs, il est tombé amoureux fou d'une fille, Gaëlle. Bref, tout va bien.
Mais forcément, il y a un mais.
Et sinon, pas de roman. Mais donc, il lui arrive quelque chose, un accident de la vie, un traumatisme, vous lirez pour savoir. Toujours est-il que sa vie change du tout au tout. Il prend une décision grave, quitter le monde, pas quitter ce monde, pas se suicider, quitter le monde. Tonino Benacquista.
Cette injustice qu'il ressent profondément, il ne trouve aucune explication à ça. Et ni le discours, ni ses amis, ni le réconfort des amis, ni la médecine, ni rien, ni aucune thérapie n'arrive à répondre à ces questions. Mais il a trouvé un stratagème, voilà. Il va passer de l'autre côté du miroir, voilà.
Mais alors dites-nous, c'est quoi le stratagème ?
En fait, il décide de s'enfermer, de se couper de tout lien social, de se confiner, si ça vous parle mieux,
comme je comprends,
en se gavant de séries télé. Il se noie, il se saoule de séries en permanence, sans arrêt, seul.
Comme un alcoolique qui se réfugierait dans l'alcool ?
C'est ce que je pensais au début, et puis finalement, on se rend compte au fur et à mesure qu'il ne se détruit pas. Au contraire, il se reconstruit par la fiction.
Ce personnage-là est en investigation permanente. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout, je sais pas quoi, enfin, des vies par procuration, de l'oubli. Non, c'est du travail. Et c'est aussi ce que je voulais faire avec ce bouquin. C'est-à-dire que voilà, moi, il y a 20 ans, j'ai écrit un bouquin qui est Saga et qui racontait voilà, une fiction à travers ceux qui la fabriquent. Mais là, 20 ans plus tard, j'avais envie de me mettre dans la peau du spectateur.
Alors, vous savez qu'on est une émission média. Quelle série regarde alors ?
Alors, justement, c'est ça le génie de ce roman. On ne passe pas notre lecture à observer juste Léo qui regarde des séries sans les voir. Je vous dis que Benacquista était aussi scénariste. Eh bien, il a construit, il a inventé des séries.
C'est génial.
Et l'histoire de Léo alterne avec les épisodes des différentes séries qu'il regarde. Et bien sûr, les deux raisonnent. Mais ce faisant, Benacquista a créé des séries qu'on a vraiment envie de regarder. Il y en a plein. Mais je vous en donne deux. Il y a Homeless Rich, par exemple, l'histoire d'un mania de la finance new-yorkaise, scandaleusement riche, un maître de l'univers qui tous les week-ends se déguise et se comporte comme un SDF, sans argent, dehors et tout. Pourquoi fait-il ça ? Bah, c'est tout le secret de la série. Il y a Old Soul aussi, je vous lis le résumé.
Ouais.
Au début, le personnage principal est un scarabée qui, au temps des pharaons, s'introduit dans une pyramide. Ce qu'il y découvre comme trésor et comme connaissance l'élève dans la hiérarchie du vivant. Si bien qu'après sa mort, il se réincarne en colibri du Chili, un rat dans un cirque romain, un saumon du Danube, un cobra royal, un bouvier australien et un orang-outan de Bornéo. La question c'est, va-t-il devenir humain. Ouais. Il y a beaucoup de séries dans ce roman. Et bien, Acquista s'est fait plaisir parce qu'il ne peut évidemment pas proposer toutes ces séries. Ça coûterait trop cher à des producteurs. Et puis, il y a une autre série qui met en scène un écrivain misanthrope connu pour son écriture acide qui, un jour, est obligé d'écrire une histoire d'amour. Or, il est très mal à l'aise avec ça. Il ne sait pas faire et il considère que toutes les histoires d'amour ont été racontées.
Ça a l'air magnifique. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une. Merci, Nicolas Carreau. Ça fait vraiment envie de lire ça. Demain, 9h30, Culture Média reprend évidemment. Nous serons avec Guy Lagache pour l'émission Les Grands Entretiens sur LCP, la chaîne parlementaire. Christophe Comte pour un documentaire sur le groupe mythique de rock britannique, les Kinks. Et maintenant, vous retrouvez Anne Romanoff et sa bande pour Ça fait du bien.